Bonsoir, comment allez-vous ? Nous entamons la période du chassé-croisé, non pas des voitures, mais des fringues. Nos petites tenues d'été vont aller très loin dans des cartons sous les lits, car ils semblent bien pliés l'été, pendant que nos écharpes, bonnets, cols roulés et robes de laine vont sortir de leur planque. Au passage, on tente un tri. Si on pouvait se délester de quelques pièces, ça ferait un peu d'air. Le tri, c'est comme la psychothérapie. C'est plus facile de le conseiller aux autres que de s'y mettre soi-même. Je m'y suis essayée, j'ai besoin de vos lumières. Que faites-vous du pantalon un tout petit peu trop petit, très joli, très bonne marque, très cher? À l'évidence, on a fait une bêtise. Quand on l'a acheté, on ne pouvait déjà pas le fermer. Mais on s'est dit que l'année prochaine, quand nous aurons 2-3 kilos de moins, eh bien, il ira très bien. L'année prochaine, nous avons 2-3 kilos de plus. Alors le pantalon retourne dans son carton jusqu'à l'année d'après, où là, on n'a pas bougé. C'est déjà ça, mais il reste trop petit. Une fois que votre petite sœur, votre fille, votre copine fluette a très clairement refusé ce pantalon que vous essayez de refourguer, qu'en faire ? Le balancer, tout neuf, tout beau, tout seul, dans la benne du relais avec les oripeaux du canton ? C'est trop triste. Le garder alors qu'à l'évidence, plus jamais vous ne rentrerez dedans, ça n'a pas de sens. Que faire d'un habit aussi beau que trop petit ? Et pourquoi est-ce si difficile de se séparer des choses auxquelles on n'est même pas attaché ? Parce qu'on les a achetées avec son argent gagné à la sueur de son front ? Mes grands-parents préféraient s'empoisonner plutôt que de jeter de la nourriture, c'était un principe.
Je m'appelle Louis, j'ai 8 ans, et donc je me demande pourquoi il y a autant de gastro-entérite au mois de janvier. Merci, au revoir.
Bonsoir Louis, et merci pour ta question. Alors c'est le docteur Frédéric Salmane qui va te répondre, cardiologue, qui s'occupe de nutrition et d'hygiène. Nous parlerons de votre livre « On s'en lave les mains chez Flammarion » tout à l'heure. Ça a peut-être un rapport avec l'hygiène, mais il parle du mois de janvier.
Parle du mois de janvier, et c'est un mois qui est très particulier. Alors d'abord, il y a deux types de gastro-entérite. Au début janvier, on a tous les ans, en France, imaginé un pic de diarrhée. Dans les premiers jours de janvier. Alors on a cherché à savoir pourquoi, et puis on a trouvé. Les gens, pour pas laisser perdre la langouste avec la mayonnaise qui n'en peut plus, les charcuteries à bout de souffle, ils finissent les restes parce que quand même, on va pas jeter.
Dommage.
Résultat des courses, ils se retrouvent avec des diarrhées parce que toute la toxi-infection alimentaire repose sur un principe, c'est que si vous laissez traîner un produit, les germes vont se multiplier dedans, devenir très nombreux, et ce qui vous aurait pas rendu malade va vous rendre malade à un moment donné. Ah, il y a des produits très sensibles, la mayonnaise, un tartare de poisson, c'est une catastrophe quand on les garde. C'est pour cette raison que chaque année, comme le réveillon traîne en longueur, et puis on se dit après tout, on finira le lendemain midi, et ainsi de suite, ben les gens tombent malades et on a un gros pic de diarrhée qui est là, est lié à des maladies de toxi-infection alimentaire. Et puis il y en a un autre qui est lié à ce qu'on appelle aux diarrhées à rotavirus. Il y a ce qu'on appelle la fameuse gastro. Alors justement, dans le livre, on a fait une étude qui est assez surprenante. On a étudié la poignée de main. Et on s'est aperçu que quand quelqu'un, par exemple, sort des toilettes sans s'être lavé les mains, dans 70% des cas, on va retrouver des germes fécaux sur la main de l'autre personne immédiatement. Je résume ma pensée. Quand vous serrez la main de quelqu'un qui sort des toilettes sans s'être lavé les mains, vous héritez dans 70% des cas de ces germes fécaux. Mais pire, 2 heures plus tard, on a retrouvé chez un tiers des gens des germes fécaux dans la bouche. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les gens,
ils se mettent l'eau dans la bouche.
Ils se mettent, ils baillent, ils toussent, ils grignotent. Et c'est comme ça qu'on a compris pourquoi ça se disperse aussi vite. Alors j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un professeur japonais. Il me disait, bah oui, c'est normal, vous serrez la main. Nous, on joint nos deux mains, on s'incline parce qu'on sait que c'est un signe qui peut transmettre. Aux États-Unis, on vous tapote sur l'épaule, les Anglais font un petit signe de tête.
C'est pas une bonne idée de se serrer la
Alors,
main.
Ça comporte pas de risque si le sujet est en bonne santé, mais l'élégance voudrait que quand quelqu'un a une gastro, qui dise « je ne vous serre pas la main aujourd'hui, je suis malade », on se serrera la main une autre fois.
Et puis qu'il se lave les mains quand il sort des toilettes, mais ça vaut pour tout le monde quand même.
Vous savez, on a étudié ça. Eh bien, vous avez la moitié des gens qui ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes. Par contre, ce chiffre tombe à 9% si vous mettez quelqu'un d'autre dans les toilettes, parce que les gens, ils ont honte. Alors tout simplement, ils se mettent à se laver les mains s'il y a quelqu'un qui regarde. Et vous savez, il y a des choses que les gens ne savent pas aux toilettes. Par exemple, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui montre que si vous actionnez la chasse d'eau avec le couvercle fermé des toilettes, vous évitez le fameux effet aérosol. C'est-à-dire que les germes se propagent partout et on les inhale. Par contre, la plupart des gens laissent le couvercle
ouvert.
Oui,
moi je fais ça.
Ils sont tellement fiers de ce qu'ils ont fait qu'ils admirent.
Ah ben je vous remercie.
Et puis à ce moment-là, ils appuient sur la chasse d'eau et il y a un effet aérosol qui était très bien étudié. On retrouve tous les germes sur les murs et un petit peu dans les poumons.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est un peu trivial. Et si on ne fait que pipi, vous savez les mains quand même ?
Bien sûr, bien sûr. Toujours. Et puisque vous parlez d'urine, c'est une étude qu'on avait faite, vous savez, il y a une dizaine d'années en Grande-Bretagne, dans des pubs, sur des bols de cacahuètes.
Ah, c'est vous les bols de cacahuètes ?
On avait trouvé, tenez-vous bien, 14 sortes d'urine par bol de cacahuètes, parce que les messieurs faisaient pipi et replongeaient dans les bols de cacahuètes. Alors, c'est pas dangereux, parce que l'urine, c'est stérile, c'était juste une question de goût.
Et ben voilà, ça c'est fait. Bon appétit tout le monde. Remarquez, au moins ça nous change un petit peu de la Covid-19. Vous trouverez les ouvrages du docteur Salman sur le site des Petits Bateaux. Ce soir, vous avez demandé si le président s'ennuyait parfois. Vous avez également demandé si c'est le silence absolu pour un pilote qui vient de passer le mur du son et si un chien pourrait se reproduire avec un loup. Savez-vous où est le Groenland ?
Bonjour, je m'appelle Pierre-Charles, j'ai 8 ans et je voudrais savoir si le Groenland est une île. Merci, au revoir.
Christian Grataloup, vous êtes professeur à l'université Paris Diderot, vous avez enseigné à Sciences Po, vous avez créé l'invention des continents, édité chez Larousse, vous êtes géographe ou bien géo-historien. Voilà une question sur le Groenland de Pierre-Charles. Elle vous parle, cette question de Pierre-Charles ?
Ah oui, c'est une question astucieuse, Pierre-Charles, parce que le Groenland, il faut se souvenir que c'est un mot viking qui veut dire Greenland, hein, la terre verte, ce qui est un peu paradoxal.
Je la croyais blanche.
Et oui, mais quand ils y sont arrivés au 10e siècle, ils ont pu faire pâturer, il faisait un peu plus chaud que maintenant, et de ce fait, les glaciers étaient, comme ils le sont d'ailleurs de plus en plus aujourd'hui, un peu réduits. Alors, qu'est-ce qu'une île ? Une île, c'est facile, c'est de la terre entourée d'eau. Si c'est tout petit, on dira un îlot, si c'est vraiment tout petit, encore plus petit, puis battu par la mer, on dira un récif, mais enfin bon, c'est de la terre entourée d'eau. Mais si on monte en taille, est-ce que l'Eurasie, c'est pas une île ? C'est-à-dire le continent, c'est une très très grande île, l'idée de continent de ce fait. Alors, quelle est la limite entre la plus grande île et le plus petit continent ? On pourrait se poser la question. Ben, moi, je trouve que c'est une fausse question, en fait. C'est des conventions, tout ça. Et que la question a été très bien résolue par les Australiens. Parce que l'Australie, ça fait plus de 4 millions de kilomètres carrés. C'est une très très grande île. Ou un tout petit continent. Mais les Australiens, ils l'appellent l'île continent. Donc voilà, ils ont résolu le problème. Alors, si on considère donc pas l'Australie, eh bien, on pourrait, en prenant un planisphère actuel, considérer qu'effectivement, le Groenland, ça serait la plus grande des îles. Mais cela dépend si on situe, quand j'ai dit la carte actuelle, parce que si vous la prenez il y a 20 000 ans, telles qu'elles étaient les limites des terres et des mers, bah, la mer étant beaucoup plus basse à ce moment-là, parce qu'il y avait des très gros glaciers sur la Terre, d'environ 130 mètres de moins que le niveau actuel.
130 mètres de moins, la mer était plus basse de 130 mètres ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui fait d'ailleurs que les restes préhistoriques sont souvent sous la mer. Alors, à ce moment-là, les îles britanniques, ou le Japon, n'étaient pas des archipels, mais étaient en continuité terrestre, faisaient partie du continent. Et le Groenland faisait partie de l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que la Terre est en continuité, mais avec aujourd'hui un petit peu d'eau, souvent gelée d'ailleurs, un petit peu d'eau par-dessus, ça fait des profondeurs de l'ordre de 50 à 100 mètres tout au plus.
C'est pas beaucoup.
Donc, est-ce que ça fait partie de l'Amérique du Nord ? Il y a 20 000 ans, j'aurais dit oui, c'était pas une île. Aujourd'hui, c'est bien une île. Comme on dit que les îles britanniques sont des îles. Donc le Japon est un archipel. Donc on peut tout à fait dire que le Groenland est une île. Mais c'est vrai que souvent on n'y pense pas et qu'on a tendance à prendre plutôt la Nouvelle-Guinée pour la plus grande des îles qui soit au monde. Cela dit, ce sont des questions tout à fait formelles. C'est pas très grave de décider si c'est un continent ou une île. Je signale d'ailleurs que le Groenland est officiellement rattaché à l'Europe puisque c'est une terre danoise.
Et pas à l'Amérique.
Et pas à l'Amérique. The table about to turn. The table about to turn. The table about to turn. Yeah. I've been flipping through my timeline, trying to get my mind right. My city cried out, I got to cool down, but I'm under pressure. Cooking with my Crisco, look at what my fist go. A renegade when I'm in a rage. I got to cool down, but I'm under pressure. I keep my hands dirty, my mind clean, got a new agenda with a new dream. I'm kicking out the old regime, liberation, elevation, education. America, you a lie, but the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. And
then you should do the dishes. Burning down plantations, ain't no barking, I don't need no validation. I light sage when I'm in a rage, I don't need permission, I got my intuition. Hands dirty, mind clean, a different mission with a new dream. We kicking out the old regime, liberation, elevation, education. I said America, use a lie, but the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. We gon' watch the table, now we gon' watch the table.
Janelle Monáe, une jeune comédienne américaine, comédienne et chanteuse, bien entendu.
Les petits bateaux sur France Inter.
Les récents événements climatiques et leurs bouleversements ont fait reparler du loup.
Salut, je m'appelle Lou, j'ai 8 ans. Je voulais savoir, qu'est-ce qui se passe quand un chien rencontre un loup? Comment ils réagissent? Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Mehdi et j'ai 11 ans. Et j'aimerais savoir si aujourd'hui, un chien pourrait se reproduire avec un loup.
Bonsoir Mehdi, bonsoir Lou, c'est un prénom un peu prédestiné, Lou, pour parler des loups. Geneviève Carbone, vous êtes ethnozoologue.
Bonsoir Lou, bonsoir Mehdi. Alors vos questions sont intéressantes et on peut y répondre de plein de manières différentes. La première, c'est un chien et un loup, donc ça voudrait dire deux mâles. Quand ils se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Je dirais que ça dépend de ce que fait le chien. Et ça dépend si le loup a faim ou pas. Après, il y a un autre versant de la question qui est important. C'est, est-ce qu'ils peuvent se reproduire? Ça veut dire, est-ce qu'on peut avoir une chienne qui se reproduit avec un loup et une louve avec un chien? Et là, pareil, ça dépend de l'état dans lequel est le loup au moment où ça se passe, ou la louve, et de la taille du chien. Si vous avez affaire à un petit chien, un chien petit en taille, ça peut devenir une proie. Et on sait qu'il y a des meutes qui se spécialisent dans le croque-en-bouche. On va manger le chien qui traîne.
D'accord.
Ouais. Donc la question est réglée, il n'y a pas de reproduction possible.
Donc une petite chienne, on ne la saute pas, on la mange.
Voilà. Donc ça, c'est lié à une question de taille. Ensuite, si ça se passe en dehors de la période de reproduction du loup ou de la louve, il ne se passera rien. Parce que comme c'est un animal sauvage, ces périodes de reproduction sont données par le milieu naturel, hein, par sa vie en milieu naturel, parce que s'il se reproduit trop tôt ou trop tard, il va y avoir un problème d'élevage des petits après. On va retomber dans l'hiver et ils ont moins de chances de survie.
D'accord, il faut que ça soit raccord avec les saisons.
Voilà, ça c'est vraiment important. Donc effectivement, si on tombe dans des périodes de chaleur pour la louve, et donc de reproduction, si elle tombe sur un chien, effectivement il peut y avoir reproduction. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que ce soit un chien qui couvre une louve ou un loup qui se reproduit avec une chienne, c'est fécond dans les deux cas.
D'accord, si c'est le bon moment, le loup il est au taquet. Mais pas si c'est
s'il n'a pas faim.
Oui, voilà,
voilà, mais s'il n'a pas faim. Parce que sinon, c'est quand même une proie. Parce que de toute façon, préférentiellement, ils iront vers des membres de leur propre espèce. Hein.
Ah oui.
Un loup va aller vers une louve et une louve va aller vers un loup.
Ah oui, c'est
après,
vraiment...
on a des cas dans le monde où effectivement la densité de chiens dans le milieu naturel ou de chiennes est tellement importante qu'un loup ou une louve a plus de risques de tomber sur un chien que sur un autre animal de son espèce. Et ce qui permet que la reproduction soit féconde, c'est parce que le chien vient du loup. Le chien a été domestiqué à partir du loup. Donc on a fondamentalement les deux versants d'une espèce, l'une est sauvage, l'autre est domestique.
Alors maintenant, Geneviève Carbone, qu'est-ce que ça fait comme individu? Le résultat de cet accouplement, c'est quoi?
Alors, visuellement, on va voir apparaître dans la portée et dans les descendants, parfois sur plusieurs générations, des choses aberrantes d'un point de vue du pelage. On va avoir des loups, entre guillemets, qui vont avoir des taches de couleur, alors que le loup, il a un pelage qui est vraiment relativement uniforme. On va voir apparaître des couleurs un peu étonnantes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Le loup est généralement gris. La deuxième des choses, c'est qu'en fonction de qui est la mère, si la mère est une chienne, les petits vont plus se comporter en chien qu'ils ne se comporteront en loup. Parce qu'en fait, ils vont adapter leur comportement à ce que montrent les parents. Et là, le parent, celui avec lequel ils vont vivre au départ, c'est le chien. Donc ils vont plus ressembler à des chiens dans leur comportement. Si en revanche, c'est une louve, ils vont se comporter comme des loups. Et ils vont être, si la meute les accepte, hein, donc s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ils vont devenir des loups. Et dans leur tête, ils seront des loups. Ça pose un problème de dilution du patrimoine génétique du loup. Et dans beaucoup d'endroits, quand les croisements féconds comme ça sont très nombreux, les préconisations sont de faire disparaître, éliminer ces animaux issus de croisements, qu'on appelle des hybrides. Parce qu'il y a une dilution des caractéristiques génétiques du loup au profit du chien.
Comme d'habitude, les ouvrages sur le loup de Geneviève Carbone sont à retrouver sur le site des Petits Bateaux. Il paraît que dans le Grand Nord, les anciens attachaient les chiennes en chaleur en périphérie du campement. Soit la chienne était mangée par les loups, soit elle était fécondée par le loup. Donc soit ils perdaient une bête, soit ils en gagnaient une dizaine. Calcul d'éleveur, un peu cruel. À propos d'un peu cruel, aussi cette histoire, mais tellement bien écrite à lire ou relire, Croc-Blanc de Jack London. Allez, nous quittons la neige pour le ciel avec Arnaud Ambert, pilote de chasse, ancien leader de la patrouille de France.
Bonjour, je m'appelle Gaspard et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir si c'est le silence absolu quand les pilotes de chasse dépasse le mur du son. Merci.
C'est un peu lu, Gaspard, mais c'est un bon moyen pour dire exactement ce qu'on a envie de dire que de l'écrire. Donc, Gaspard voudrait savoir si c'est le silence absolu quand le pilote de chasse dépasse le mur du son. Vous êtes pilote de chasse, lieutenant-colonel Arnaud Ambert. Alors, comment ça se passe quand vous dépassez le mur du son?
Alors, j'espère que je ne décevrai personne. Mais effectivement, quand on passe le mur du son dans notre appareil, c'est le silence complet.
Ah,
on n'entend rien, on n'entend pas ce mur du son. On le voit s'afficher parce qu'on voit notre vitesse qui passe le Mach, ce qu'on appelle passer le Mach. Mach 1, c'est le mur du son. Et dès lors qu'on est au-dessus de Mach 1, on sait qu'on a passé le mur du son. Donc voilà, c'est l'information qu'on en a. À l'intérieur, c'est le silence parce que cette onde de choc qui se crée à cette vitesse-là, cette surpression qui se crée, eh bien, elle est derrière nous. Donc, forcément, nous, on ne peut pas l'entendre, alors que les gens qui sont sous notre trajectoire, eux, vont pouvoir entendre ce bang supersonique.
Imaginons que vous n'entendez pas le bruit que fait votre appareil en passant le mur du son. Mais imaginons qu'il y a un clarinettiste sur un nuage et que vous passez à côté. Est-ce que le fait d'aller plus vite que le son vous empêcherait d'entendre le son émis par quelqu'un de l'extérieur?
Pas si je vais vers lui.
Ouais.
En revanche, si je suis dos à lui, je pense que oui. Parce que si je vais vers lui, je vais vers son son.
Ouais.
Je vais y aller rapidement, mais...
Je dirais quand même.
Et à partir du moment où je l'ai secteur arrière, comme on dit, et que je le fuis, et ben là, j'irai plus vite que le son de sa clarinette. Donc si je veux entendre la clarinette, c'est vers le clarinettiste qu'il faut que j'aille.
Arnaud Ambert est venu il y a bien longtemps au Petit Bateau, mais c'est la semaine dernière, le mercredi 30 septembre exactement, qu'à la mi-journée, en région parisienne, nous avons entendu un énorme boom. Et la petite Chloé Michel nous a téléphoné pour nous demander ce que c'était exactement que le mur du son. Alors nous n'avons pas eu le temps de faire venir quelqu'un, mais nous avons diffusé cette question que nous avons sous le coude du pilote de chasse, Arnaud Ambert.
Ça, je l'ai bien connu. Je mène ma vie comme un radeau perdu. Les gens de la nuit sont toujours là quand il faut. Ils vous accueillent avec des rires et des bravos.
ça je les connais bien. Les filles qui vont autour des musiciens. Les gens de la nuit sont toujours là quand il faut. Ils vous appellent avec des rires et des bravos. Ils sont du silence.
Véronique Sanson, c'était Vancouver. Eliane Gérard me dit que c'est à cause, ou plutôt grâce à cette chanson, qu'elle est partie pour Vancouver. Dis donc, quand t'écoutes Toulouse de Claude Nougaro, tu sautes dans le train. Si vous avez des questions à poser au petit bateau, eh bien vous faites le 01 56 40 43 57 et nous trouverons un spécialiste pour vous répondre. Je vous préviens, ça risque de prendre un petit peu de temps.
Bonjour, je m'appelle Léda, j'ai 10 ans. J'aimerais savoir si le président s'ennuie des fois. Merci, au revoir.
Bonsoir Léda, nous avons proposé ta question à une philosophe et psychanalyste, Cynthia Fleury, professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers. Je ne sais pas ce que vous avez compris dans le mot « président », Cynthia Fleury.
Ben, j'ai compris déjà, si vous voulez, qu'elle présuppose certainement que l'ennui est corollaire. Alors corollaire, ça veut dire que ça va avec l'action permanente. Parce qu'en gros, qu'est-ce que c'est qu'un président ? Ça fait des choses importantes et tout le temps. Donc ça ne peut pas s'ennuyer parce que c'est du quantitatif. Et en fait, on se rend compte que l'ennui n'est pas lié nécessairement à la quantité de choses qu'on fait, mais à la qualité de choses qu'on fait. Et donc, oui, on peut passer sa vie à faire plein de choses et en fait s'ennuyer. Pourquoi ? Bah parce que son désir n'est pas d'être là, par exemple, à l'instant T, hein, c'est-à-dire à ce moment-là avec les gens, et qu'on aimerait être ailleurs, tout simplement. Donc l'ennui, il est lié en fait à la question du désir. L'ennui, il est lié à la question de l'intérêt qu'on porte aux choses, aussi à la présence des personnes qui sont là. Par exemple, on peut s'ennuyer de quelqu'un qui n'est pas là, alors que la situation n'est pas spécialement ennuyeuse.
Donc, vous pensez à l'expression « je m'ennuie de toi ».
Ben oui, je m'ennuie de toi. Je m'ennuie de toi, et de fait, quand on est un président, on s'ennuie beaucoup d'un toi, au sens de quelqu'un de précis, qu'on aime, etc. Parce qu'un président, ben, c'est tout le temps, avec beaucoup de gens, et notamment des gens qu'il ne connaît pas. Alors, c'est passionnant. C'est vrai aussi, hein, donc on va la rassurer en lui disant que le président ne fait pas que s'ennuyer. Mais en revanche, ce qui est intéressant dans sa question, c'est oui, on peut s'ennuyer. Et généralement, ne pas s'ennuyer, ça veut dire qu'on est heureux d'être là où on est. Donc on a un sentiment de liberté, on ne se sent pas trop contraint. Et surtout, on désire ce qu'on est en train de faire.
Donc en fait, l'ennui n'est pas forcément synonyme de vide. Ça peut être plein de quelque chose qui en fait ne vous remplit pas.
C'est tout à fait. C'est-à-dire que par exemple, on peut être dans une situation où on ne fait rien et c'est le bonheur. Et on ne s'ennuie absolument pas. On s'ennuie pas, pourquoi ? Parce qu'on est présent aux choses, on regarde la nature, ou tout simplement on est avec un être aimé, ou alors on se passionne pour un livre, même un exercice qui est difficile et qui va nous attirer comme ça, comme une espèce d'étoile. Et là, on ne s'ennuie pas. À partir du moment où on s'ennuie, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu douloureux. Alors pas qui fait mal, hein, mais quelque chose qui est de l'ordre de la contrainte. On se sent obligé de faire quelque chose.
Et plus on a de pouvoir, peut-être plus on a de contraintes.
Ben, je pense que sa question renvoyait à ça, c'est qu'elle s'est dit, tiens, quel est le personnage, peut-être, en France, qui a le plus de contraintes sur la tête ? Et ce qui n'est pas totalement faux. En tout cas, ça fait partie des grands personnages publics qui, oui, ont beaucoup de contraintes, parce que voilà, il y a un ordre du monde, et normalement, on est au service de l'intérêt général, en l'occurrence, quand on est président de la République. Et donc, un président, souvent, ce qu'il a dans son cœur, sa personne propre, compte moins que les grandes questions qui s'abattent sur lui.
Avant de nous quitter, j'aimerais vous parler d'un petit livre, le 5e accord Toltec. Ces accords sont tout simplement des principes de vie. Les voici. Le premier, ne dire de mal de personne. Je cite l'auteur Miguel Ruiz. Si vous utilisez la parole pour déverser du poison émotionnel, vous pensez nuire à l'autre. Mais c'est à vous que vous faites du mal, en déclenchant une guerre dans laquelle vous devrez vivre. Deuxième accord, ne pas en faire une affaire personnelle. Par exemple, celui qui vous a doublé en voiture sur la route ne vous connaît pas. Il ne peut donc pas vous prendre pour un imbécile, même s'il vous a fait une queue de poisson. Votre honneur n'est pas en cause. Cette manœuvre n'a rien à voir avec vous. Troisième accord, ne pas interpréter, ne pas faire de suppositions. Par exemple, il ne me dit pas bonjour, il se croit supérieur, il est peut-être juste myope. Nous n'avons pas le scénario de vie des autres. Quatrième accord, faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est faire taire le juge qui est en nous, celui qui nous désigne coupable pour un oui, pour un non. Faire de son mieux, c'est suffisant. Quand on ne dit plus de mal des gens, qu'on ne fait plus de suppositions, qu'on ne prend plus pour soi, on gagne beaucoup d'énergie. Le petit cinquième, c'est douter. Beaucoup de nos tracas viennent du fait que nous croyons dur comme fer à tout un tas de choses fausses. Par exemple, quand j'étais enfant, on disait que les garçons ne devaient pas pleurer. Maintenant, on sait que c'est absurde. Apprenons à faire le tri dans les informations que nous recevons. Pour trier, il faut écouter. Écouter. Puis se faire confiance. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Le 5e accord Toltec est en livre de poche chez Jouvence. Ces petits bateaux sont à réécouter ou à podcaster sur franceinter.fr. Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham, Jean-Baptiste Audibert, Julien Chabassu. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30.